Exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous. Merci de votre confiance et de votre fidélité. C'est la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Je vous le disais tout à l'heure en préambule, en début d'émission, vous êtes nombreux à nous appeler de Guinée après le coup d'État du 5 septembre. Nombreux à souhaiter réagir aux concertations nationales pour préparer la transition. Cela fait bientôt 2 semaines que le colonel Doumbouya rencontre les forces vives de la nation. Certains estiment que ces concertations s'éternisent. C'est votre cas, Alpha Amadou. Bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Vous êtes à l'abbé. Merci de nous appeler. Alors, que se passe-t-il? Que reprochez-vous à ces concertations nationales?
Écoutez, au début, on pensait que les concertations n'allaient pas dépasser les 5 jours. Mais aujourd'hui, nous sommes à 2 semaines de concertation. Et 2 semaines de concertation dans une période aussi exceptionnelle que celle que nous traversons aujourd'hui, moi, je pense qu'on aurait pu faire l'économie de toutes ces 2 semaines-là en 2 ou 3 jours de concertation entre partis politiques et société civile. Et puis, on passe à autre chose. Jusqu'à présent, on ne connaît pas la composition du CNRD. Le chronogramme n'est pas encore affiché. On n'a pas encore commencé la transition.
Oui, enfin, vous avez envie que de précipiter les choses. Ce que dit le colonel Doumbouya, c'est justement de prendre le temps, d'éviter les erreurs du passé. Et ces concertations nationales, c'est la nation. Donc la nation ne se limite pas à la société civile, comme vous dites, et à la classe politique. Hier, par exemple, la junte a rencontré les organisations des femmes, les organisations des jeunes. Avant-hier, c'était rendez-vous avec les magistrats. Il y a eu le patronat. Il y a eu, toutes les grandes corporations du pays. Oui, Alpha Amadou.
Tout ce que vous venez de citer là fait partie de la société civile. Dans une transition, on a besoin de tous les acteurs, mais pas de n'importe quel acteur, des acteurs clés. On n'attend pas du colonel Doumbouya d'un miracle. On ne peut pas régler tous les problèmes de la Guinée dans une transition, aussi longue qu'elle soit. Il nous a déjà libérés, c'est déjà beaucoup. Et j'ose espérer que le colonel Doumbouya n'a pas pris le pouvoir juste pour le prendre, comme l'a fait Moussa Dadis Camara. Et on dit très souvent, ceux qui oublient l'histoire risquent de la répéter. Oui. En 84, lorsque le colonel Lansana Conté a pris le pouvoir, il a fait près de 10 ans. C'est en 93 qu'il a organisé l'élection présidentielle. En 2008, lorsque Dadis a pris le pouvoir, il ne voulait pas partir. On a manifesté, on a eu le massacre du 28 septembre 2009. Donc, on regarde tout ça. On n'a pas droit à l'erreur, il a dit qu'ils ne vont pas recycler. Donc j'aime bien le croire, mais...
Mais vous avez des doutes. En tout cas, dès le premier jour, quelques minutes après le coup d'État, il a été clair, le colonel Doumbouya. Il a dit souhaiter une transition inclusive. Et inclusive, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on inclut tout le monde, Amadou. Et ça prend du temps, je suis pas là pour défendre la junte, hein. Je ne suis pas l'avocat du colonel Doumbouya. Ne raccrochez pas, Alpha Amadou. pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Paul nous rejoint. Bonjour Paul.
Oui, bonjour Juan, bonjour à RFI, la radio qui nous informe et à ses multiples auditeurs et auditrices.
Et qui vous donne la parole, vous êtes à Conakry, Paul. Alpha Amadou s'impatiente et s'inquiète de la durée de ces concertations nationales, qu'en pensez-vous?
Bon, je pense tout à fait le contraire. On a souvent l'âge de dire que qui va lentement va sûrement. Nous pensons que les chantiers sont vraiment énormes. Lui-même, il a dit quelques éléments, je ne reviens pas là-dessus. Mais ce à quoi moi je m'attends après ces consultations, un, qu'il y ait une feuille de route claire connue des Guinéens, deux, qu'il y ait une charte précise des organes de transition, en fait, des législatives de la transition, de ainsi de suite. Trois, poser les vrais jalons des institutions d'une forte, des institutions fortes, pardon, pour espérer avoir un état de droit. Quatre, ne pas faire du recyclage pour éviter de faire du alpha sans alpha. Et surtout, du reste, la junte a déclaré beaucoup de choses. Faire la refondation de l'État, réécrire l'histoire, dépolitiser la fonction publique et faire en sorte qu'elle soit professionnalisée. Ne pas faire la chasse aux sorcières.
Oui. Mais justement, est-ce que ces premières déclarations, est-ce que les premiers actes de la junte sont de nature à vous rassurer, Paul?
Moi, en tout cas, du côté de la consultation avec la société civile, à me rassurer, parce que
On est en train de vous perdre, Paul. Le réseau se dégrade. En tout cas, vous avez l'air d'être rassuré. Refondation de l'État. En 2 secondes, Alpha Amadou, est-ce que vous pensez qu'en 6 mois, c'est faisable? 6 mois, c'est le délai, oui. C'est le délai fixé par la CEDEAO. Alpha Amadou.
One, 6 mois, je pense que c'est pas raisonnable. 2 ans, je pense, on peut avoir une transition rationnelle en 2 ans. Mais les militaires ne peuvent pas construire un état de droit dans un contexte africain. Et jusqu'à présent, je donne un bénéfice de doute au colonel Doumbia et j'ose espérer qu'il va être notre général de Gaulle de la France.
Bon, voilà qui est dit. En tout cas, transition de 2 ans pour vous. Paul, à Conakry.
Oui, transition de 2 ans, pourquoi pas. Mais avant de se déterminer sur la date, moi je pense qu'il est question d'abord, comme je l'ai dit, qu'on ait la feuille de route et la charte qui vont nous préciser tous les éléments du chantier. Oui. Comme ça, on pourra se déterminer sur la date.
D'accord, mais à vous écouter, Paul, le chantier s'annonce colossal. Enfin, il est énorme, ce chantier. Est-ce que les 6 mois fixés par la CEDEAO vous semblent suffisants?
Non, Juan. Moi, d'ailleurs, parler de la CEDEAO dans cette affaire, je comprends bien que les instances diplomatiques comme la CEDEAO, quand il y a des problèmes dans des pays membres de la CEDEAO, c'est bien qu'ils viennent. Mais la CEDEAO a aujourd'hui de l'embarras à cacher
Je ne sais pas ce que vous voulez dire, je ne peux pas vous aider Paul, je suis désolé. Mais en tout cas vous dites qu'elle est embarrassée, elle est embarrassée de quoi la CEDEAO?
Elle est embarrassée d'avoir été complice du coup d'état constitutionnel que le régime de Alpha a perpétré.
Oui, en fait vous reprochez à la CEDEAO de ne pas être intervenue à l'époque au moment de la modification de la constitution. Paul et Alpha Amadou, c'était passionnant, merci à tous les deux d'avoir contribué à la réflexion. Et évidemment la semaine prochaine on reviendra sur ces consultations, seront-elles terminées? Peut-être ce week-end, je ne sais pas. Chaque jour, on découvre de nouveaux rendez-vous, donc à suivre, évidemment. On va parler du Bénin. C'était au menu de la dernière édition d'Afrique Matin. Le Bénin, après le tête-à-tête, la rencontre inattendue, mercredi, entre le président Talon et son prédécesseur Boni Yayi. Ça faisait 5 ans que le déshomme ne s'était pas revu, 5 ans que les deux alliés devenus ennemis ne s'étaient pas parlé face à face. Avec nous, Innocent, qui souhaite prendre la parole. Bonjour Innocent.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe et bonjour à toute la RFI, la radio qui libère l'antenne et la parole tous les vendredis à 9h40.
Eh ben dis donc, quel slogan, je vais le noter, on va voir ça avec le service commercial de RFI, ce sera le nouveau slogan de l'émission. Innocent, pour revenir donc à cette rencontre entre les deux hommes, les deux présidents, l'ancien et l'actuel, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous êtes rassuré?
Oui, faut dire d'abord dans un premier temps que c'est une rencontre historique, hein, parce que jamais dans l'histoire du Bénin, un ancien chef d'État ne s'est jamais porté vers celui qui est en cours de mandat pour la décrispation, en tout cas, du climat sociopolitique. Et maintenant, moi, je pense que c'est une rencontre prometteuse, hein. Puisque au sorti, en fait, le président Yayi a martelé que lui, il est dans une posture de demandeur. Donc, le président actuel, Talon, est dans une posture de décideur. Donc, nous espérons si ces doléances exprimées seront... prise en compte, quoi.
Oui. Je rappelle que Boni Yayi a effectivement formulé un certain nombre de doléances, et notamment la libération des détenus politiques, la fin des arrestations politiques et le retour des opposants en exil. Reste à savoir maintenant quelle sera la décision du président Patrice Talon.
Oui, merci beaucoup. Mais moi, je plaide pour une certaine clémence, une certaine grâce présidentielle vis-à-vis des détenus politiques actuellement au Bénin. Mais est-ce qu'au nom de la décrispation, en fait, de la situation socio-politique, faudrait-il liquider, en fait, les crimes économiques commis, perpétrés sous le régime de Yayi? C'est moi ma question. Et la deuxième question, est-ce que, au nom de cette déradicalisation-là, en fait, de la situation socio-politique, faudrait-il liquider ou banaliser en fait la mort des 28 militaires qui ont été tués lors des affrontements post-électoraux? C'est ça la question. Maintenant,
donc, ce que je comprends, Innocent, finalement, dans votre analyse, hein, pour être assez concis, parce que le temps passe très très vite, ce que vous dites, c'est que, bon, pour décrisper, il faut peut-être faire effectivement quelques sacrifices pour décrisper la situation politique, mais d'abord, peut-être passons par la case justice, et ensuite, peut-être au président de gracier ou non ces personnes. C'est ça où vous voulez en venir?
Oui, dans
c'est
un
ça.
Premier temps, mais fondamentalement, en fait, les exilés politiques doivent revenir au pays, répondre de leurs actes, sinon on va réveiller les vieux fantômes. Ceux qui sont déjà là, qui croupissent dans les prisons, ont répondu de leurs actes et ils vont se rendre coupables. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur et qui veulent revenir, mais qu'ils reviennent pour assumer leurs responsabilités vis-à-vis de l'État.
Voilà, qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Merci Innocent, bonne journée. Vous êtes dans la province, dans quelle province? D'où appelez-vous exactement Innocent?
C'est Mepoji,
d'accord, très très bien. Merci, bonne journée, bonne fin de semaine à vous. Rappelez quand vous le souhaitez, évidemment. On en parlait tout à l'heure avec Serge Daniel, notre correspondant au Mali, l'affaire Wagner. Vous savez que la France, l'Union Européenne, la CDAO ne cachent pas leurs inquiétudes face à la volonté des autorités de transition de signer un contrat avec Wagner, le groupe paramilitaire russe. Bonjour Amadou.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va, monsieur Iwan.
Alors, vous faites partie de ceux au Mali qui disent clairement que les autorités de la transition ont raison de discuter avec Wagner.
Tout à fait, parce que je disais que la nature a horreur du vide. Au mois de juin, le président français a annoncé que la France allait réduire ses troupes au Mali. Alors, comme on dit, diriger et gouverner, c'est prévoir. Donc, les autorités maliennes ont cru bon de prendre des dispositions pour combler le vide qui sera laissé par le retrait d'une partie des troupes françaises.
Et ce vide, il doit être comblé par des mercenaires?
Non, mais c'est pas des mercenaires. Et on sait que Wagner est partout. Il est en Centrafrique, il est en Syrie. Il est sur beaucoup de théâtres d'opération, donc ça, je pense que il faut qu'on arrête de les brocarder en disant que c'est des mercenaires.
Amadou, excusez-moi, on dialogue, on discute. Hein, je ne suis pas là pour vous juger, bien évidemment. Vous dites qu'ils sont en Centrafrique, en Syrie, en Libye. Je suis d'accord avec vous, mais à chaque fois dans tous ces pays, il y a eu de nombreuses exactions commises par ces mercenaires, et toutes ces exactions, elles sont documentées.
Ouais, mais en France aussi, au Mali aussi, il y a eu des exactions, il y a eu Bounty quand même.
Hein? Bounty.
Donc, il faut relativiser. L'armée française a bombardé un village, soi-disant que c'est des terroristes. Pourquoi l'armée française n'a pas accepté que l'armée malienne aille à Kidal? Donc, si c'est des juger, on peut tous juger. Mais le résultat est là. C'est qu'en 8 ans de présence de troupes internationales, les résultats sont très insuffisants. Le Mali est beaucoup plus occupé aujourd'hui qu'il l'était en 2013.
Donc il faut, dites-vous, aujourd'hui changer de partenaire alors?
Non, mais il faut changer de stratégie, pas forcément de partenaire, mais il faut changer de stratégie quand même.
Amadou, vous restez en ligne, vous êtes à Bamako, je vous présente Mamadou, il est également dans la capitale malienne. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan.
Alors, que vous inspire ce débat autour de l'affaire Wagner dans votre pays?
Une diversion de plus. Recourir à Wagner, ça veut dire clairement que les autorités de la transition sont à côté de la plaque. Elles n'ont rien compris dans les enjeux, en fait. Depuis 8 ans, c'est le tout militaire qu'on est en train d'utiliser, la France avec d'ailleurs, et personne ne se pose la question. Qu'est-ce qui explique cette faillite de l'État? Qu'est-ce qui explique ce déficit de confiance que les populations ont vis-à-vis de notre État aujourd'hui? Il faut se poser les bonnes questions de fond et essayer de remédier au lieu d'aller payer des mercenaires à 7 millions par personne par mois, ça fait un peu plus de 10 000 euros. Quand vous ne payez pas les militaires maliens à plus de 600 euros, vous imaginez?
Alors moi j'ai pas ces chiffres-là, moi j'ai un chiffre global qui est un chiffre cité par Reuters, hein. C'est Reuters qui a révélé cette information la semaine dernière, nos confrères de l'agence Reuters évoquent plus de 9 millions d'euros par mois.
Par mois pour 1000 hommes.
Pour
1000 hommes, quand vous faites les ratios...
Plusieurs centaines d'hommes, on parle d'un millier d'hommes, plus un accès à des sites miniers.
Écoutez, vous voyez, quand le militaire malien est payé à moins de 600 euros, les officiers, qu'est-ce que ça va donner sur le terrain? Une armée à double vitesse ou à triple vitesse? C'est ça? Aujourd'hui, je pense que, honnêtement, ces autorités n'ont rien compris des vrais enjeux. C'est pourquoi ils sont dans cette diversion, dans cette fuite en avant de Wagner. On peut amener 10 000 bataillons de Wagner tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes de fond. On ne va pas sortir de cette guerre. Et l'Afghanistan est là pour le montrer.
Mamadou, merci de votre analyse et de ce témoignage. Merci à vous, Amadou, également, de nous avoir appelé de Bamako. Et voilà un sujet que nous continuerons à suivre de près, puisqu'il ne vous laisse pas indifférent. À chaque fois, vous êtes nombreux dans la libre antenne à souhaiter en parler. Allez, un sujet plus léger, quoique les enjeux sont importants. Et oui, la présidence de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football, ça y est, c'est officiel. Depuis mardi, Samuel Eto'o brigue la présidence. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Rouen, bonjour à tous, merci et mes amitiés à toute l'équipe en place.
Que d'encouragement, ça nous fait plaisir. Emmanuel, vous êtes à Yaoundé, vous saluez la décision de l'ancien international.
Oui, je salue la décision de l'ancien international, déjà parce que la FECAFOOT a été longtemps politisée. Donc, politisation à outrance sur fond de détournement d'argent. Et donc, il est temps que la FECAFOOT sorte de ce bourbier dans lequel on l'a plongé et que tous les aventuriers puissent être écartés afin que les professionnels puissent prendre les choses en main.
Oui, alors on peut être en même temps, excusez-moi Emmanuel, très bon joueur de football, mais ensuite être un mauvais manager et un mauvais président de fédération. Hein.
Ah oui, tout à fait, je le concerne, mais je pense qu'il faut quand même leur donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer, puisque l'adage est bien connu, on juge le maçon au pied du mur. Parce que la FECAFOOT a été très longtemps prise en otage, je vous en prie, par tous les aventuriers, les mercenaires, les pêcheurs en eau trouble et autres gangs. Et donc, il est temps que ces personnes soient écartées afin que les professionnels dont Samuel Eto'o montre prouve de quoi ils sont capables.
Bah, il va le montrer déjà, hein, parce que le processus électoral est particulièrement long. Il doit commencer aujourd'hui ou demain, d'ailleurs, avec les assemblées générales des ligues départementales. Et il s'achèvera le 11 décembre avec l'élection du président. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Samuel Eto'o veut, dit-il, redonner au football camerounais, sa grandeur, c'est son slogan. Merci à vous, Emmanuel, d'avoir appelé. Vous souhaitiez un dernier mot, peut-être ?
Oui, je pense qu'il en a les moyens, il a, au-delà de le dépolou, je pense qu'il peut bien faire parce que son plan d'action est assez éloquent, assez clair, ça fait 2 ans qu'il travaille, donc nous pensons que Samuel est l'homme de la situation.
L'homme de la situation. Merci Emmanuel, bonne journée, on verra si vous avez raison, on verra ça le 11 décembre. Allez, il nous reste 2 minutes, il y avait encore d'autres sujets, mais je voudrais qu'on aborde celui de la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. On en parlait il y a 2 semaines avec les étudiants de l'université Félix Houphouët de Boigny. Et bien voilà que le débat est relancé. Achille, bonjour.
Bonjour Juan.
Il est relancé, d'autant qu'un député, Antoine Assalé, assure que cette question sera soumise au Parlement l'année prochaine. Il souhaite réinstaurer une limite d'âge pour briguer la magistrature suprême.
Je pense que c'est un mauvais choix que de prendre une loi pour limiter l'âge à la candidature à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. C'est un peu discriminatoire. Imaginons un cadre des Nations Unies, un Ivoirien qui a fait toute sa carrière aux Nations Unies, qui revient au pays, qui a 75 ans, qui veut se mettre au service de son pays. Il ne peut pas l'être parce que Laurent Gbagbo et Didier et Alassane Ouattara vont décider. C'est discriminatoire, à mon avis. Laissons le peuple choisir qui doit diriger. Aux États-Unis, on a Joe Biden qui a 36 ans, qui est président des États-Unis. Et ça marche très bien. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire?
Oui, pourquoi pas en Côte d'Ivoire, mais ce que disent certains, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir tourner la page et qu'on a les 3 mêmes personnalités politiques qui occupent ce champ depuis 30 ans maintenant et qu'il est temps de laisser la place
au peuple de décider. Oui, c'est 300 candidats, des jeunes sont candidats, sur le peuple choisi des jeunes.
Mais vous savez bien, et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, Achille, que si dans 4 ans, Henri Colombédier, qui a 87 ans aujourd'hui, se présente, le président Alassane Ouattara se présentera également. Vous voyez ? Donc finalement...
C'est au peuple de choisir. Moi, c'est ce que je dis. On ne fait pas une loi contre des personnes. Ça dénature même la nature même de la loi. Oui. La loi est censée être impersonnelle.
Oui. Sauf qu'avant 2016, il ne fallait pas avoir plus de 75 ans pour être candidat à l'élection présidentielle. Il y a eu modification de la Constitution. Jusqu'en 2016, ça ne dérangeait personne qu'on limite la candidature à 75 ans.
La Constitution est devenu un livre banal que les gens révisent au gré de leurs intérêts. Ce qui n'est pas normal.
Bon. Achille, je regarde la pendule, il me reste 10 secondes pour vous dire au revoir, pour saluer les auditeurs, remercier tous ceux qui nous écoutent de leur fidélité. Merci à vous tous, prenez soin de vous, on se retrouve lundi. Lundi, on parlera du Mali et de cette affaire qui fait du bruit, l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel à l'époque d'Ibeka.